Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2025 et vous écoutez une interview de ProxyJeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. ProxyJeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Benoît Fix. Et cet après-midi, je suis accompagné d'Elodie. Salut Elodie.
Salut Benoît FX.
Tu vas bien?
Bah ouais, ça va bien.
Et nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui Doumi. Et à ses côtés, une personne dont la voix, je suis sûr, vous a manqué et vous est familière sur l'antenne de ProxyJeux. C'est Paul Gara. Salut Paul Gara.
Salut Benoît FX, salut Elodie. Salut Doumi.
Et salut Doumi, ouais.
Salut à tous.
Et cet après-midi, vous venez nous parler de l'association Safe in Game. Donc on va y revenir après, mais avant ça, on va faire notre traditionnel fil rouge.
Donc avant de commencer l'interview, nous avons pour tradition de proposer une série de questions à tous nos invités. Est-ce que vous êtes prêtes pour l'exercice?
Ah, donc.
Pour vous, quel est l'as d'or du jeu pour rire avec les potes?
Franchement, de manière automatique, mon cerveau il a pensé à Top 10. Voilà, donc je vais dire Top 10.
Waouh, putain, j'ai pas de réponse.
C'est pas
bah ça c'est chaud, t'as des amis
j'ai
ou pas?
J'ai pas de potes et j'aime pas rire, merde.
Non, toi t'aimes juste pousser des cubes
moi,
à
j'aime,
l'allemande.
Moi
quoi.
J'aime ça, c'est Grand Austria Hotel parce que moi, mes amis et moi, on adore servir des strudels. Je vais peut-être répondre Grand Austria Hotel à toutes les questions.
On a eu le cas, alors pas Grand Austria Hotel, mais des réponses un peu similaires.
Réponses à toutes les questions. Quel est pour vous l'as d'or du jeu qui vous fait le plus fumer le cerveau? Grand Austria Hotel.
Franchement, le jeu auquel j'ai joué qui m'a fait plus fumer le cerveau, j'ai une hésitation entre Shackleton Bays et Zango, qui sont deux jeux qui sont édités chez Storyware French. Je fais pas la promo du tout de mon éditeur, mais c'est vrai que ça m'a bien fait fumer la tête.
Moi, il y a certains jeux FFG où les règles, c'est quand même pas possible. Et je pense que mon cerveau, il fume parce que c'est...
Tu veux dire genre les JCE, genre Arkham et tout?
Ouais, ou même les contrées de l'ordre. Ça, où il faut que tu reprennes, t'es obligé de reprendre la règle tout le temps. Puis il y a toujours un mot que t'as oublié sur une carte, et puis un trait, et puis un truc, et t'as envie de chialer, quoi.
Ah, carrément, quoi.
Bah, c'est...
Ça donne envie de chialer.
Oui. Ah oui, moi, j'ai eu des parties où je m'étais aperçu que ça faisait une heure et demie qu'on avait fait n'importe quoi sur un point de règle. Et où là, tu te dis, en fait, ça, c'est la règle, mais il y a aussi l'appendix. Mais pourquoi faire ça aux gens?
Donc on va peut-être avoir le même genre de jeu, pour toi Paul Gara en tout cas. Quel est l'as d'or du jeu auquel vous ne voulez plus jamais rejouer?
Secret Hitler.
Franchement, c'est vrai que c'est un bon choix Paul Gara, ouais. J'aime beaucoup aussi. J'ai pas d'autre idée en réalité, mais c'est vrai que j'ai pas du tout aimé mon expérience de Secret Hitler, qui était vraiment catastrophique. L'ambiance autour de la table était délétère, donc allons-y pour ça. Mais je pense qu'il y a d'autres choix aussi seraient possibles. Hein. D'autres jeux horribles.
Mais celui-là est pas mal, je trouve.
Quel est pour vous l'as d'or du jeu auquel vous pensez encore 3 jours après la fin de la partie?
Moi, je pense que 3 jours après avoir joué à Grand Austria Hotel, chez Paul Garage, j'y pensais encore, donc je vais dire Grand Austria Hotel, je sais qu'elle est trop contente.
Bah oui, du coup, je vais pas dire Grand Austria Hotel, je vais dire Cthulhu Death Medaille, parce que quand même, on a fait des parties extraordinaires et Elodie, elle peut en témoigner. Notre dernière partie avec Dany et Mad, où c'était incroyable. Dany, on est toutes mortes et Dany, elle a achevé Cthulhu toute seule.
Elle était la petite fille, on l'imaginait comme ça, avec ses gros couteaux, à balancer du feu partout, ouais, voilà. En badass totale.
La gamine, c'était énorme. Ouais.
Moi, je pense que j'en ai rêvé. T'sais. Et quel est l'as d'or du jeu le plus moche
au niveau couve?
Au niveau le plus moche.
Ce que tu veux.
Il y a de la compète hein, quand même.
Il y en a pas mal de jeux moches hein, quand même.
La couve d'Hambourgoum, elle est quand même hardcore.
Oh non. Mais... Alors, moi, ça y est, j'ai trouvé mon jeu moche.
Est-ce que c'est celui avec les animaux qui ont pris du LSD?
Non, moi, je vais parler de Wizard. C'est un vieux jeu. Je pense que tout le monde le connaît. Un vieux jeu emprunté du Whist. Ils n'ont jamais changé le design des cartes et la DA, mais depuis 30 ans.
On dirait que les personnages, ils ont fondu.
Ouais. mais toi, tu vois pas? Tu vois pas Wizard?
Je sais pas, là, ça me dit rien.
C'est un Knizia, on est d'accord.
Je crois que bien.
Il est chez Gigamic dans les petites boîtes métal, là.
Ah, mais oui, ça y est, je vois. Ah, putain, mais oui.
Il est immonde, hein.
C'est pas beau.
Ah, puis t'as deux cartes N et Z, ou je sais plus quoi, la typo est exactement la même. Donc si tu poses ta carte à l'envers, tu sais jamais si c'est la carte néant ou la carte je sais pas quoi. C'est vraiment mal fichu.
Voilà, donc ça c'est mon jeu moche depuis mes... que mon père me l'a offert il y a genre, je pense, 20 ans. Et j'ai fait « Ah, mais je veux pas jouer à ce jeu, il est trop laid
!» Dans des jeux récents, il y avait aussi la coupe de Glasgow. Et pourtant, c'est Clémence France, quoi. Et tu lui dis « Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire cette... » Outre le fait que c'est vraiment pas beau, il y a tout... C'est... Elle est hyper gênante et malaisante, la coupe. Vraiment... Et vraiment, j'aime beaucoup Clémence France, mais là, c'était trop, là. Je peux pas le défendre. On peut
pas
le défendre.
Un petit écart, quoi.
Ah ouais, là, un petit écart. Il avait, je sais pas, une taxe foncière à payer ou j'en sais rien.
Après, je pense qu'on pourrait continuer longtemps, là. Oui, plus on en parle, plus j'ai des exemples. Donc, vite, coupez-nous avant le drame.
Là, c'est la fin du fil rouge, ça tombe.
T'en as aussi un. Attends, je crois que c'est Roads and Boats, où t'as l'impression que ils ont fait un concours dans une école maternelle de dessin pour choisir l'illustration de la boîte, quoi.
Après, ça peut être un style, hein.
Ça peut être
si c'est bien assumé.
Ah, mais non, c'est vachement malin, parce que ouais. Regarde, on s'en souvient, on la voit, donc, c'est que c'est, d'un point de vue marketing, c'est bien joué.
Ça s'appelle le style à l'allemande.
Ouais.
Eh bien, merci pour vos réponses.
Donc, Paul Guerra, Doumi, avant de commencer l'interview, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots?
Donc, moi, effectivement, mon pseudo, c'est Doumi. Dans la vraie vie, je suis responsable communication chez un éditeur. Et sinon, bah, je suis secrétaire chez Safe in Game, qu'on va vous présenter juste après. Voilà.
Et donc, moi, je suis Paul Guerra et je tiens un podcast qui s'appelle Le Point de Paul Guerra. Avant, j'étais chez Proxy Jeux. Peut-être certains s'en souviendront. Et voilà. Et puis, de façon, un podcast indépendant, non sponsorisé, non rémunéré. C'est pas mon métier. Voilà. Et je suis aussi jurée du prix Lizzie Maggie et dans Safe in Game. Donc, je suis présidente de l'association.
Est-ce que tu peux nous dire quelques mots du prix Lizzie Maggie?
Le prix Lizzie Maggie, c'est un prix qui est décerné depuis 2021 à l'initiative de la Toile Ludique et l'association qui porte le festival Rennes en Jeu, qui avait l'envie d'avoir un prix ludique un peu différent. Et donc, il en est ressorti un prix qui est là pour récompenser l'engagement sociétal, environnemental, en fait, des jeux de société. Donc, ça va être l'engagement... Enfin, l'idée, c'est de parler de jeux d'une façon plus politique. Et donc de chercher des jeux et primer des jeux, mais aussi des personnes, des démarches qui portent un propos politique. Ça veut pas dire que c'est des serious games ou ce genre de choses, hein. Ça va, voilà. Et donc le prix est remis à l'occasion du festival Rennes en Jeu. Okay. Et le dernier palmarès, c'était Avril Alder, qui est une autrice de jeux de rôle, Link City, qui pour le coup pousse pas. On voit pas forcément l'aspect politique de prime abord. Et
mais pourtant, quand on y joue.
Quand on y joue, on le voit. Et ensuite, bien sûr, des breaks de Matt Leacock et Matteo Menapace. Sachant qu'on a quand même mis la réserve sur des breaks, je le redis, parce que vraiment, il faut le dire, c'est que la localisation a enlevé les QR codes et l'accès au site. Voilà.
Ce qui est dommage, effectivement.
Et le site qui reprenait quel type d'information?
Toute la documentation scientifique notamment qui a été utilisée par les auteurs pour créer le jeu, puisque c'est un jeu sur le
changement climatique.
Et voilà, la lutte contre le réchauffement climatique et contre les émissions de carbone.
On va passer maintenant au cœur de l'interview et à ce pourquoi vous êtes venues toutes les deux. Donc en septembre 2023, vous êtes plusieurs femmes joueuses à avoir co-signé un communiqué sur la toxicité dans le secteur ludique. S'en est suivi l'ouverture d'un Discord pour recueillir la parole des victimes, notamment. Et le 14 février dernier, vous avez officialisé la naissance de l'association Safe in Game, dont l'objet est d'alerter sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu ludique. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît?
Déjà, on a choisi le 14 février parce que c'est une super date. C'est le jour où on fête l'amour avec les gens qu'on aime. Et on s'est dit, c'est une date symbolique, alors pourquoi pas?
En fait, on voulait communiquer sur l'association. Elle a été créée en réalité légalement bien avant, en fait, le 25 septembre. Mais les choses prennent du temps. Il y a des formalités juridiques à faire, des formalités bancaires, enfin ce genre de choses. Et donc, on s'était toujours dit qu'on communiquerait officiellement sur la création quand on aurait vraiment avancé beaucoup de tout ce qui sont ces tâches. Parce qu'en fait on est toutes bénévoles dans l'association on voulait le faire quand même avant Cannes, je pense qu'il y avait cette volonté on s'est dit que le 14 février effectivement ne pouvait être que la meilleure date, enfin ça tombait exactement, c'était ça ou le 8 mars, hein. on hésitait un peu mais on s'est dit non, on va faire 14 février, voilà.
Le 8 mars, ça tombait après Cannes, du coup, ça marchait pas.
C'était un peu trop tard.
Ouais. La date était pas mal aussi, ouais.
Et en fait, en septembre 2023, quand l'article, il est co-signé, il n'y a pas encore cette volonté. En fait, il n'y a pas la volonté de créer une association. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de feuille de route. il y a plutôt l'idée que qu'il y a des comportements problématiques de plein d'ordres différents, variés, et il y avait l'envie de à un moment aussi mettre le sujet sur la place publique. Alors on pourrait dire de jeter un pavé dans la mare, mais parce qu'on se rend compte que quand si on le fait pas ça, on a aucune écoute en réalité. Et à partir de là, il y a eu la création du Discord, comme tu l'as dit, qui était notre premier objectif. Donc c'est un espace non mixte. On l'a tout enfin donc forcément moi j'étais là au moment de la création, mais Doumi l'a rejoint je pense dès le premier jour en fait, enfin voilà. Et il y a eu quand même il y a un groupe qui s'est formé. On a toujours des nouvelles arrivées et tout, mais il y a eu un socle, et progressivement ben le but c'est alors bien sûr de recueillir la parole, on va en parler plus en détail des missions, mais il y a eu aussi cette volonté de réfléchir collectivement à ce qu'on allait faire en fait de ce mouvement en fait, enfin de en tout cas, et puis de ce qui s'était créé quoi. C'est ce fait qu'on se rassemble dans un lieu virtuel certes, mais qu'on se rassemble pour la première fois pour parler de ces sujets quoi. Et je pense que ça aussi on a cheminé pour en arriver à ça quoi.
Et à l'époque du coup de l'article qui est sorti, quelles ont été un peu les réactions du milieu ludique autour, et est-ce que ces réactions ont justement orienté ou alimenté votre réflexion sur le fait de devoir créer une association, de se structurer encore plus sur ces sujets-là?
C'est les fondatrices qui avaient lancé cet appel. De l'extérieur, si tu te rends compte que il y a une problématique qui est soulevée, qui a jamais été soulevée dans ce milieu, qui est une problématique qui ne touche pas spécifiquement ce milieu. Donc quand on parle de VSS, de ces questions-là, de sexisme, c'est une question plus large qui touche la société. Et le milieu du jeu de société, du jeu de rôle aussi, n'est pas plus sexiste que d'autres milieux de la société. Mais c'est important quand même de dire qu'on n'est pas non plus protégé, que ça nous touche aussi. Et donc c'est vrai que toi, en tant que femme, tu vois des personnes qui font cet appel, ça te touche puisque tu as pu vivre des situations comme ça, que ce soit de près, de loin, que ce soit des situations qui peuvent sembler anodines. Il y a le sexisme ordinaire qui existe. On reste dans un milieu où quand même, à l'origine, c'est assez masculin aussi. Voilà. On a l'image, que ce soit en boutique du barbu derrière son comptoir, et aussi en festival, on est conscient qu'il y a eu une époque où c'était beaucoup plus masculin comme environnement. Ça change, donc ça c'est bien. Le milieu s'ouvre progressivement à tout un tas de nouvelles personnes. Mais c'est important de noter qu'il y a encore du chemin à faire, et c'est vrai que le collectif s'est progressivement construit. Il y a eu ce premier appel, il y a eu ces premières initiatives, il y a eu le Discord, et rapidement on s'est rendu compte que peut-être que pour gagner en légitimité aussi, pour qu'on soit reconnu, que ce soit au niveau des structures, donc ça, quand on parle de structures, on parle de festivals par exemple. Là, on est au Festival des Jeux de Cannes, mais du coup, c'est un appel aussi potentiellement à plus tard avoir une certaine légitimité pour intervenir, à faire des cycles de conférences, etc. Et c'est des choses qui, en tant que collectif juste de personnes qui se regroupent, tu n'as pas cette légitimité. Les personnes sur le Discord, une majorité a décidé que ça pouvait être intéressant de créer un vrai statut et donc une association.
Ouais, et puis sur les réactions suite à la publication de l'article, je peux pas dire que je pense que quand même majoritairement les gens le problème ne surprend pas tant que ça. En fait, c'est juste qu'on n'a pas envie d'en parler parce que ça remet beaucoup de choses en question. Il y a majoritairement eu plutôt des retours positifs. Bien sûr, on a toujours des personnes qui font semblant de ne pas comprendre, qui veulent résumer le problème à des individus. Alors, au lieu d'accepter que ce soit un problème systémique, là, c'est quelque chose sur lequel on a toujours été ferme, de dire que c'est un problème d'un système, d'un groupe. Au départ, c'est surtout lié au
patriarcat.
Voilà, au patriarcat. Bien sûr, on nous a dit, mais non, ça concerne pas tout le monde, blablabla. Bon, ça, on répond, on essaie de faire de la pédagogie. Il y a des moments où c'est fatigant parce que on répète en plus des choses, c'est que on n'a pas inventé. Hein. Enfin, toutes les personnes qui expliquent, enfin, il y a des gens vraiment calés sur ces sujets-là qui expliquent encore mieux pourquoi non. C'est on peut pas recevoir des arguments comme Not All Men, etc. Donc, on a bien sûr eu des gens qui sont réfractaires à ces sujets, qui nous traiteront d'excités de la poêle asiatique, bien sûr. Mais ça, on n'y peut rien. Enfin, on le savait aussi, mais on a aussi quand même globalement, on a des structures officielles qui je pense au réseau des cafés ludiques, parce que eux, je pense que c'est des problématiques qui, du fait qu'ils sont aussi bars, connaissent bien mieux, ont beaucoup plus conscience avec toute la problématique. En plus, si tu vends de l'alcool qui rajoute des couches supplémentaires au problème, il y a tout de suite des contacts qui se sont créés et on a senti qu'il y avait quand même aussi une véritable envie de faire des choses en conjointe, d'où c'est aussi ce qu'on espère, la légitimité d'être une structure juridique qui est, on a choisi la forme de l'association, ben c'est aussi pouvoir identifier un interlocuteur privilégié sur ces questions-là aussi pour les professionnels.
Et est-ce qu'il y a eu un retour, par exemple, du Festival de Cannes par rapport à éventuellement une expertise pour installer des safe places ou ce genre de choses ?
Le moment qu'on a choisi, qui était le 14 février, pour faire l'annonce officielle, fait que c'était très très court entre ce moment, cette annonce, et le Festival des Jeux de Cannes. Donc je pense que pour le coup, c'est plutôt des choses auxquelles ils pourraient penser l'année prochaine.
Tu parlais justement de l'objectif premier de l'association. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel est l'objectif premier de l'association ? Que disent les statuts ? Quel est
L'objectif premier de l'association, c'est d'offrir aux personnes qui se considèrent comme victimes ou même pas victimes ou juste parce que c'est des questions qui les intéressent, un endroit qui soit ce qu'on appelle une safe place. Donc on peut parler librement, sans jugement, dans l'écoute, dans le soutien, échanger sur ces sujets-là. Donc pouvoir témoigner si on a été victime, pouvoir discuter, échanger. Et vraiment, l'idée, c'est pas de donner des conseils au sens de fais ci, fais ça, porte plainte, pas plainte, casse-lui les genoux. Enfin, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord de juste de dire on est là pour t'écouter et on est là pour te soutenir. Et quelles que soient tes décisions, ton chemin après, voilà, on sera là pour t'aider. Donc c'était vraiment l'idée et on l'a conçu comme un espace non mixte. Alors aujourd'hui c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué qu'à la création, hein, le fait d'avoir un espace en non mixité, parce que ça questionne aussi des choses qu'on n'avait pas forcément vues dès le début sur la question du genre des personnes, comment elles se situent, etc. Je vais reprendre une image que j'avais déjà utilisée, c'est comme une sorte de vestiaire en fait, hein. Et dans un vestiaire, on n'a pas forcément envie que ce soit mixte, non. L'idée, c'est d'être à l'aise et de pouvoir parler librement, parce qu'on est persuadé que de pouvoir formaliser, identifier, dire, parler, c'est la première étape vers la résolution de ce type de problème, quoi.
Et oui, et du coup, la forme de l'association, ça permet peut-être aussi à des gens extérieurs qui ne sont pas dans cette safe place de pouvoir aussi plus facilement communiquer avec vous sur ces sujets.
Oui, parce que de fait aussi, ça permet de donner un autre accès que celui du Discord.
Qui doit rester
On avait déjà quand même eu l'idée d'avoir un mail pour recueillir des témoignages possibles pour des personnes qui ne pourraient pas rentrer dans le Discord pour les raisons qu'on a évoquées, mais qui avaient été témoins de choses, ou même victimes hein, d'ailleurs. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a voulu garder. C'est-à-dire il y a ce Discord qui est... Et dans le Discord, tout le monde n'est pas membre de l'association. Hein. C'est plusieurs strates. C'était pas une obligation pour rester sur le Discord d'être membre de l'association.
Donc moi, je fais partie de ce Discord. Et donc c'est aussi un espace qui donne de la force et du soutien à... des personnes qui jouent et des personnes du milieu ludique. Et ça, est-ce que vous l'aviez envisagé au moment de l'ouverture du Discord, cet aspect-là ?
Pour moi, c'est vraiment... ça fait partie du package. C'est-à-dire il y a une safe place, mais c'est aussi un lieu de rencontre.
Il faut le voir comme un... Et puis aussi de se donner du... Enfin, j'ai utilisé le terme hein, d'empowerment. En fait, c'est vraiment ça aussi. C'est de partager... aussi de partage d'expérience. Parce que quand on fait les comptes, on s'aperçoit que isolément, on pense qu'on est la seule personne à qui on a rencontré ces problématiques. Puis en fait, le fait de pouvoir parler tout ensemble, ça permet aussi de démontrer qu'on a des problématiques communes. On peut partager nos expériences, et s'entraider. Et il y a vraiment aussi cette idée d'entraide aussi. Au-delà du soutien et de l'écoute sur des choses qui seraient plus graves. Enfin.
Oui, ça va du...
Et parfois même, on parle de jeux aussi.
Voilà, on parle de jeux, on parle de trucs triviaux des fois. Et il y a ce côté de se donner de la force collectivement et d'être une sorte de marée qui monte de force.
Et puis, il y a ce côté un peu... moi, je voyais tous les boys clubs autour de moi et j'étais en mode « Ah, mais moi aussi, j'aimerais trop avoir mon club. » Ben voilà, maintenant, j'ai mon girls club.
Et c'est très cool.
Ouais. Pour revenir au côté empowerment et réseau, ça permet à des femmes et des personnes, par exemple non binaires du milieu, de se rencontrer. Dans le jeu vidéo, il y a Women in Games qui existe, qui est un peu une forme différente puisqu'eux, ils sont vraiment tournés sur le côté professionnel, alors que nous, on est plus sur l'accueil de la parole des personnes, etc. Mais on a quand même cette dimension-là de mise en relation. Ça permet de se connaître aussi, de se reconnaître et de voir qu'on est là et qu'on a eu des problématiques similaires à un moment donné, qu'on a des retours d'expérience. Et ça, ça permet aussi de construire tout un tas de choses hyper importantes derrière qui vont être des ressources, aux ressources que, par ailleurs, nous sommes en train de construire et qui pourront servir de base derrière pour faire du conseil et ce genre de perspective.
Pour donner un exemple tout bête, mais il y a plusieurs membres du Discord qui sont freelance. Et souvent, quand on est freelance, on est assez isolé. Enfin, voilà. Et c'est bien aussi de pouvoir en discuter et de partager. Et là, on est sur du pur professionnel. Mais ça permet aussi de partager sur ces sujets-là, quoi.
Oui, de se donner des conseils sur comment facturer, sur, parce que on a aussi ce complexe de l'imposteur pour beaucoup. De pas oser, demander, la vraie valeur de notre travail. Pour certaines, et d'avoir comme ça des gens qui vont dire, mais si, faut y aller.
Voilà, t'es fondé à augmenter tes tarifs, par exemple, t'es fondé à exiger ça, etc. Et il y a aussi un autre aspect sur l'écoute, le soutien, le fait d'être en collectif comme ça, ça veut dire que le nombre permet qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible, en gros, pour que si quelqu'un a besoin, il y a toujours une autre qui est là, qui est disponible, parce qu'on peut pas, on peut pas être trois à gérer. Mais en fait, c'est ça qui est beau, c'est que on peut prendre la relève les unes après les autres, selon nos disponibilités, notre état d'esprit, ce que l'on traverse. Si on est armé pour le faire, il y a des sujets parfois on pourra pas parce que ça peut résonner aussi pour d'autres aspects. Et pour moi, c'est vraiment la formule du chant des partisans. C'est un ami quand tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. C'est vraiment ça, quoi. Voilà. Pour moi, c'est ce qui illustre le mieux l'idée. Il y en aura toujours une de nous disponible pour prendre le relais et se soutenir, quoi.
Le but principal de l'action, c'est déjà d'accueillir, recueillir la parole et créer cette safe place. Quelles autres actions sont aussi mises en place ou quelles autres actions vous avez prévues? Vous parliez de ressources que vous allez mettre à disposition, par exemple. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus?
Là, on est sur la création du site internet. C'est un élément très concret. Il y aura un vrai site internet pour l'association, site internet qui aura des différentes sections, des actualités, les buts de notre association, nos missions, des liens pour adhérer ou nous soutenir. Donc n'hésitez pas, il y aura un petit lien parce que peut-être que tout le monde ne peut pas adhérer à l'association comme on est en non mixité, mais vous inquiétez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez nous soutenir dans tous les cas. Et il y aura aussi effectivement une section avec des ressources, notamment des chartes qui peuvent aider. On a parlé du réseau des cafés ludiques. C'est vrai qu'on travaille avec eux depuis un certain temps, puisqu'il y avait une volonté de leur part. Ils nous ont sollicité pour savoir, on est face à telle ou telle situation. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que vous avez des conseils? Donc là, on est en train de travailler, par exemple, sur une charte. Voilà. Et quand on fait ce travail, on le fait dans le collectif, mais on le fait aussi en se rapportant à des vrais travaux qui existent déjà, du travail d'autres associations aussi. Donc, on a certaines personnes dans le collectif, enfin dans l'association, qui ont par ailleurs pu travailler dans d'autres structures ou associations d'accompagnement de victimes. Donc ça, c'est une vraie force.
Qu'on va capitaliser sur. Ouais. C'est encore l'idée de capitaliser sur nos compétences.
Tout à fait.
On puisse toujours apporter une pierre. Et vraiment, je pense que l'aspect ressources, il est très important parce que c'est toujours facile quand on parle comme ça de dire il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Mais si à un moment on formalise toutes ces idées en fait dans des chartes de bonne conduite ou de bonnes pratiques ou de comment réagir à telle situation, forcément c'est mieux que juste des paroles en l'air ou qu'on oublie. Et voilà, l'idée c'est vraiment de ça, d'avoir quelque chose de complet, d'utile et de accessible facilement.
Donc ça c'est sur le court terme quand même. Sur le moyen terme et le long terme, il y a des travaux avec d'autres associations. Donc, on va travailler sur le tissu associatif, notamment sur l'accompagnement des victimes, puisque nous, on est peut-être une porte d'entrée, mais il y a certains aspects de l'accompagnement, par exemple un accompagnement juridique, ce n'est pas du tout notre objectif. Donc, par exemple, ça, ce serait relayé vers d'autres associations qui sont
spécialisées,
plus spécialisées que nous sur ces questions-là. Et c'est souvent le cas. De toute façon, les associations travaillent en relation les unes avec les autres. Donc, nous aussi, il faut qu'on connaisse nos limites, ce qu'on est, ce qu'on n'est pas. Par exemple, nous ne sommes pas un endroit juste pour pointer du doigt des personnes. Comme a dit Paul Guérat tout à l'heure, c'est pas un endroit de lieu de confrontation individuelle. Exactement. On est là vraiment pour accompagner, soutenir, éventuellement former, conseiller. Mais voilà, je pense qu'on est dans des missions comme ça. Et
pareil, on n'est pas, on n'a pas de compétences médicales, donc on, tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est effectivement de relayer sur des associations qui vont prendre, qui sauront elles gérer les aspects médicaux. Qu'ils soient physiques ou psychologiques, des personnes qui en ont besoin, en fait. Nous, c'est vraiment, c'est ce que tu dis, Doumi, c'est exactement ça, c'est on est une porte d'entrée, en fait, on est un relais, on est un premier accès qui permet de dire ce qui s'est passé, voilà, c'est pas normal. Je suis pas la seule personne à le penser.
Ça
j'ai
déjà confirmé que c'est pas normal, quoi.
Voilà, et t'as d'autres personnes qui sont là et qui vont me dire, maintenant, t'as raison et c'est légitime. Et après, d'essayer de proposer des solutions, mais sans jamais. On n'est jamais là pour imposer ça à qui que ce soit. Le but, c'est d'écouter et que, en libérant la parole, les personnes, elles puissent faire leur propre, prendre leurs propres décisions, en fait, en ce qui les concerne.
Est-ce que depuis justement la publication du premier article, alors effectivement, l'association est très récente, mais est-ce que vous percevez déjà une évolution, un début de changement des mentalités, ou est-ce que c'est quand même encore un peu compliqué? Est-ce qu'il y a quand même encore des réticences qui sont fortes dues à un aspect effectivement systémique, structurel?
Je vais être tout à fait honnête, hein. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Simplement, aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'on ne savait pas que le problème il existait. Voilà, c'est tout. C'est pas que pour ce sujet-là, hein, mais en termes de lutte politique, moi, je ne crois pas du tout, je ne crois plus qu'on peut juste taper sur l'épaule de quelqu'un en lui disant « Écoute, ce serait sympa que tu fasses attention à ça ou que tu nous donnes des droits et tout. » Parce que les gens, ils disent « Oui, oui, t'es sympa, bon, tu repasses plus tard parce que là, j'ai vraiment pas le temps. » En fait, malheureusement, si on n'a pas cette démarche d'être un peu plus radicale et voilà, de forcer les gens à regarder les problèmes, on n'obtiendra jamais rien. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé, mais je pense qu'au moins, le problème, on ne pourra pas dire qu'on l'ignorait. Voilà, c'est plus possible aujourd'hui.
Et encore, moi je trouve que t'as utilisé le mot radical. Je pense pas qu'on soit dans une association radicale à l'heure actuelle. On est vraiment
l'association. Non, je pense le fait d'avoir un texte qui était assez affirmatif, en fait. Je parle juste de la première publication, en fait, qui était.
Non, mais c'est pour pas que les gens nous disent vous êtes des radicalistes, etc. Quoi. Qu'on soit bien d'accord, chers auditeurs. Ça a un peu agité la fourmilière, on va dire.
Je pense qu'il y a des questionnements individuels qui en sont ressortis. Après, que ça débouche sur des vraies démarches collectives, officielles, institutionnelles, ça c'est autre chose. Mais je pense que ça a quand même suscité des questionnements.
Moi, après, je pense aussi qu'il est un peu trop tôt pour parler de tout ça, puisque avant c'était juste vraiment il y a eu ce texte fondateur, il y a eu le Discord, et pour moi, on n'avait pas il y a toujours cette question de la légitimité. Oui. Et tant que t'as pas un statut officiel, je suis désolée, mais tu n'es pas pris vraiment en compte. T'as un peu les petits rigolos sur le côté, et je pense qu'on aura encore un petit peu statut de petit rigolo sur le côté tant qu'on n'aura pas encore plus développé l'association que ça, mais ça va venir. Il faut y croire. Nous, on y croit. On sait qu'on a nos plans d'action, qu'on a des choses qu'on veut faire sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme aussi. Maintenant, la porte est ouverte. Il y a déjà des personnes qui nous ont contactés, différents types de structures. C'est vrai qu'on a parlé du réseau des cafés ludiques. Je pense qu'ils nous ont bien motivés aussi. Donc ça, c'est bien. Ils sont revenus vers nous. On a eu des discussions avec des personnes d'autres structures associatives du milieu du jeu de société aussi. Donc ça va commencer, mais il y avait besoin de ce statut officiel d'association pour que enfin on se dise il faut peut-être travailler avec et vraiment prendre en compte ces questions.
Je sais pas si on a une auditrice, un auditeur qui se pose la question de mais moi personnellement ou collectivement, qu'est-ce que je peux prendre comme petite action, pas forcément compliquée, hein, mais qu'est-ce que je peux avoir comme impact dans justement ce changement de mentalité et que ce sujet soit pris en compte un petit peu plus sérieusement.
La difficulté, c'est que quand on n'est pas du tout concerné par ces sujets, voilà, on ne les voit pas, parce qu'on n'est pas et on ne voit pas le problème et c'est difficile. Ceci dit, quand des personnes te disent non, là, ça, c'est problématique. Quand t'as des comportements qui sont manifestement sexistes, que tu vois, genre, je vais prendre un exemple, c'est pas quelqu'un en tête, hein, mais je suis dans un festival, tu vois que il y a l'animateur essaye absolument de choper le numéro d'une femme à la table, bah, en fait tu laisses pas passer, enfin tu pointes le fait que c'est problématique, tu ouvres les yeux, en fait c'est juste déjà première étape, c'est d'ouvrir les yeux. Et si des femmes te disent que quand elles poussent les portes d'association, c'est compliqué. Au lieu de dire, répondre, mais non, on a toujours été inclusif, mais non, on est bienveillant. Mais en fait, toi, tu penses que tu l'es. Mais si la personne, elle te dit qu'elle ne l'a pas vécu comme ça, c'est vrai. Enfin, et en fait, c'est souvent ça le problème, c'est que c'est les ressentis des personnes qui sont concernées quand elles remontent. On va minimiser le ressenti des personnes. Or, si les personnes, elles te disent qu'elles se sont senties, victimes d'un comportement sexiste, qui peut aller de choses très graves à des choses qui nous paraissent anodines parce qu'on y est tellement habitué, en fait, on a abandonné un peu le fait de vouloir les voir comme sexistes, mais ça peut être sur d'autres questions, hein, d'autres discriminations. En fait, c'est faire croire les gens quand ils te disent qu'ils l'ont, ils ont ce ressenti, voilà, et du coup se poser des questions sur pourquoi moi je l'ai pas vu. Bah peut-être parce que je suis pas concernée, donc c'est normal que ça me choque pas. Et puis si t'as vraiment témoin ou dans des situations vraiment problématiques. Mais non, il faut pas laisser passer. Et il y a un moment, il faut plus laisser passer. Parce que, à force de, si on n'est pas un, mais deux, mais cinq, dix, quinze, à dire, non, ce jeu où il y a une carte qui fait, des blagues sur le viol collectif, bah, en fait, non, c'est pas drôle. Et non, éditeur, t'as pas à sortir ce jeu-là en 2025. Bah non, si on est, je sais pas combien de personnes à remonter le sujet, bah, à un moment, ça finira par avoir plus de poids que si c'est une personne toute seule qui fait la remarque, quoi. Et de pas laisser passer. En fait, je pense que c'est vraiment ça.
Il y a effectivement réagir. Il y a première étape, écouter. Ouais. Donc écoutez les femmes autour de vous. N'hésitez pas à tendre une oreille et à pas leur dire oui mais non. Moi je vois pas la couleur des pions. Il y a pas de couleur, il y a pas de genre. Voilà. Surtout ne répondez pas ça parce que là ça va pas bien se passer. Mais écoutez les gens et réagissez en cas de situation, comme tu disais, Paul Gara, quelle situation ordinaire.
Oui, ordinaire. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour les personnes qui sont victimes, mais y compris de discrimination, je n'aime pas dire ça, mais anodine, parce que d'une part, elles sont victimes, et si en plus tu minimises leur ressenti et que tu leur dis qu'en fait elles en font pour pas grand chose, c'est comme une deuxième agression, en fait. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. Et donc c'est atroce. Et en plus, la personne, tu la mets beaucoup moins en situation d'être suffisamment assertive ensuite après pour pouvoir elle-même
poser
des limites. Ouais, donc, enfin, c'est très insidieux que cette façon de faire, quoi. Et puis voilà, le victim shaming, on sait que ça existe. Enfin, c'est un biais humain qui est assez répandu, pas que là-dessus, mais parce que c'est tellement plus réconfortant de se dire que une chose aussi grave ne peut pas exister. En fait, voilà, c'est un mécanisme de protection. Simplement, on peut en être conscient et essayer de lutter contre ces biais, quoi. Par exemple, sur le jeu de rôle, c'est quelque chose qui a été fait fréquemment. Il y a encore eu une initiative il y a pas longtemps sur pour lutter contre l'invisibilisation des minorités dans le jeu de rôle. Il y a un document qui reprend toute une série de témoignages, et je pense que vraiment il faut lire ces témoignages pour comprendre la diversité de ce qui est subi et la récurrence, parce que je pense que tant qu'on n'est pas confronté à des cas précis, on a tendance à dire que c'est très abstrait et de l'éloigner de nous, comme si c'était toujours le fait de c'était un truc un peu comme un peu une légende urbaine qu'on entendrait et tout. Mais alors que si tu lis des cas concrets, je pense que ça sensibilise aussi. Et après, ça peut faire penser à des cas dont on a, des situations qu'on a vues et où on n'a pas pensé à réagir, quoi.
Alors, lire des témoignages ou poser des questions aux personnes autour de toi, puisque comme on disait tout à l'heure, écouter, faut les écouter. Et lire des témoignages, c'est chouette, mais vous allez vite vous rendre compte qu'autour de vous, c'est arrivé à vraiment presque tout le monde.
Oui, puis je pense que ce que la team Not All Men ne comprend pas vraiment aussi, c'est que on parle pas forcément de choses très extrêmes, et que je pense que en tant qu'homme, aucun peut dire qu'il n'a jamais eu un comportement légèrement déplacé ou des remarques lourdaux. Enfin, je pense que je vois pas quelqu'un qui pourrait dire non, j'ai jamais fait une petite remarque en blaguant ou ce genre de trucs. Et du coup, c'est pas, on ne parle pas que des comportements qui sont ultra problématiques, mais ça, c'est vraiment du quotidien, quoi.
T'as le truc classique, hein, le mansplaining, c'est pas du tout une légende, hein, c'est tout simplement quelqu'un qui a une bonne intention de base, c'est t'expliquer quelque chose que tu sais déjà, voilà. Bah, y a quand même quelqu'un qui a essayé de m'expliquer un des jeux qu'on édite dans ma maison d'édition, quand même. Voilà. Donc, typiquement, bah, t'es là, bah, c'est cool, mais en fait, c'est moi qui connais, pas toi. Et là, en plus, on est dans une situation dans laquelle c'est moi qui avais vraiment le savoir. Enfin, c'est... Donc ça, c'est des comportements typiques qu'on retrouve très, très fréquemment. Donc, on n'écoute pas la personne en face de soi et en plus, on va la couper et on va essayer d'expliquer à la personne en quoi elle a tort, en quoi on a raison. Enfin, voilà, en étant souvent à côté de la plaque.
Et bien sûr, là, on parle de quelque chose qui paraît anodin, mais c'est déjà, enfin, voilà. Donc, je pense que, comme tu le disais, personne ne peut, je pense qu'il n'y a aucun homme qui peut venir dire qu'il n'a jamais eu ce comportement. Parce qu'en plus, c'est un comportement qui est normal dans la société dans laquelle on vit, en fait, qui est normalisé, qui ne pose pas question. Mais d'autres exemples, hein. Pourquoi dans une association, par exemple, on va pas faire en sorte qu'il y ait une vraie parité dans les instances de l'association? Pourquoi on va pas justement faire rechercher à promouvoir des femmes à des postes qui soient pas des postes dans les entreprises qui sont spécifiquement, en général, des postes associés plutôt à des fonctions féminines? Voilà, on le sait tous très bien qu'il y a énormément de discrimination et il y a dans l'imaginaire collectif un genrage des métiers.
T'as le care pour les femmes. Voilà. Donc par exemple, s'il faut s'occuper de l'organisation logistique d'une conférence, tu vas faire en sorte d'avoir le catering ou les choses comme ça, tandis que ton collègue, lui, fera le PowerPoint et la présentation textuelle, quoi. Ouais, bien sûr.
Et ça, c'est des petites choses pour dire que ça, c'est une forme de, c'est du sexisme ordinaire, en fait, qui est complètement banalisé, qui est pas vu. Et donc, voilà, c'est ça, en ça que c'est pas possible de dire que, on parle pas que, on pourra reprendre l'exemple d'actualité, mais oui. Non, c'est pas une question de personnes monstrueuses et c'est pas une personne isolée. C'est tout un système qui permet ça en invisibilisant ces problématiques.
Et tu l'as très bien dit, du coup, la première chose, c'est de s'en rendre compte. Mmh. En fait, on va pas pouvoir ne plus le faire, parce que, comme tu le dis, c'est systémique, donc ces comportements continueront à exister, mais la première étape, c'est effectivement de s'en rendre compte.
C'est ce qu'on appelle la déconstruction, et c'est un travail qui est très très long, de longue haleine, et moi encore, j'ai des biais sexistes, la première, parce que je viens d'une culture, d'une éducation, d'une société dans laquelle je vis, où moi-même, c'est des biais que j'ai intégrés. Et il faut juste questionner dessus. Forcément, c'est plus difficile de remettre en cause des choses qu'on pensait acquises que de rester campé sur ses certitudes. Hein. Et on a le droit de se tromper, on a le droit de faire des erreurs. Et il suffit de demander et au moins d'avoir
reconnaître cette, déjà, un peu
au moins, et si on te dit non, là c'est vraiment un peu limite cette réflexion, de pas d'être dans le déni, juste parfois juste s'excuser, c'est déjà une très bonne chose.
Mais on n'est pas très exigeante, oui. Déjà entrer dans la démarche, c'est déjà une grande étape, on le sait pour vous, hein.
La question, ça va être de pouvoir vraiment transformer cette énergie collective. C'est un travail de longue haleine, hein. Je disais, on est toutes bénévoles, on a toutes d'autres obligations. C'est épuisant, enfin, c'est beaucoup de temps passé. Puis parfois, c'est quand même sur des sujets qui sont durs, même à gérer. Il faut pouvoir les porter. Moi, petite perso, en un an et demi, je suis ultra fière de ce qu'on a fait. Parce que on peut nous dire mais pourquoi vous avez pas, parce que ça, il y en a beaucoup qui sont venus nous expliquer qu'on aurait dû faire comme ci comme ça, ces gens-là, enfin, j'aimerais bien, je les en prie qu'ils fassent quelque chose, enfin, j'attends, je prétends pas qu'on ait fait tout parfaitement, mais moi je suis ultra fière de ce qu'on a fait et je pense que ça a été, même si ça a été utile qu'à une seule personne, ça déjà légitime le fait que ça existe.
Moi, je ne suis pas membre du CA et je suis donc juste sur le Discord. Et le travail que vous avez fait et cet espace que vous avez mis en place est vraiment important. Donc, merci beaucoup à vous. Merci pour ce travail. Et oui, les gens râleront mais comme vous venez de le dire, ça n'avait pas été fait avant. Et on voit la force que cet espace nous donne. Le fait qu'elle nous rende plus légitimes aussi. Et ça, c'est, ne serait-ce que si vous avez déjà aidé une personne, aidez-moi, quoi.
Ouais. Ce genre de merci à toi pour ton retour et ton soutien, parce que En vrai, c'est un vrai marathon. C'est une course de fond qui est très très longue. Et malheureusement, on sait que dans le secteur associatif, les gens peuvent s'user parce que, en plus, il faut savoir que bah tu nous donnes ton soutien, vous nous soutenez avec Proxy Jeux, voilà, on fait cette interview. Mais il y a des gens aussi qui sont plutôt de l'autre bord et qui ont envie que ça casse, qui ont pas envie que nous on continue parce que là, on parle, on est entre nous, ça se passe bien, etc. Mais il y a plein de gens qui ont pas envie que les choses changent. Et ces personnes-là, elles vont nous envoyer plutôt la haine, tu vois. Et on est des êtres humains et à un moment donné, c'est pas très agréable. Mais par contre, il faut savoir, et on tient à dire à ces personnes-là, au cas où elles écoutent le podcast, que non, on lâchera rien, en fait. Et que, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas une, on est un collectif. Et que s'il y a une de nous qui, à un moment donné, est trop fatiguée, il y en a une derrière qui prendra le relais. Donc que ça sert à rien. Et que les menaces... ça ne sert à rien non plus.
Voilà, on va rien lâcher, comme on dit, parce que là on a beaucoup donné d'exemples aussi parce que c'est un sujet qui est pas évident à évoquer de questions qui sont liées à du sexisme ordinaire. Mais vous vous doutez bien qu'il n'y a pas que ça et qu'il y a des choses qui peuvent éventuellement relever du droit pénal. Là, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Je dis pas qu'il y ait de hiérarchie dans le ressenti des victimes, mais il y a des hiérarchies dans les crimes, les délits et les atteintes civiles. C'est hors de question qu'on lâche parce que il y a des enjeux aussi humains qui sont derrière, qui sont énormes. Et nous, on sera toujours là pour soutenir. On peut, comme dit Doumi, il y a des gens qui n'ont pas envie que ça change. Maintenant, ça sert à rien de penser que elles peuvent nous intimider et nous faire. Aujourd'hui, c'est trop. Enfin, voilà, on a été déjà le plus gros pas, il a été franchi. Et non, parce que je pense que c'est. Enfin, comme je disais, c'est vraiment un sujet qui est trop important. Et il y a des enjeux pour les personnes qui ont fait. Enfin. Qui sont venus témoigner, c'est déjà une étape énorme. Il est hors de question qu'on les abandonne, quoi.
Eh bien, Doumi Polgara, merci beaucoup à vous.
Merci à vous.
Pour merci ce à
témoignage
vous
et pour avoir partagé avec nous la création de cette association, son but et toutes celles qui veulent rejoindre l'association, venir sur le Discord, on mettra vos coordonnées dans le billet et elles pourront vous contacter sans problème.
Merci
à vous.
Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeux.fr. Proxy avec un I et jeu avec un X. On se retrouve très vite sur Proxy Jeux pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout...
Jouez bien !